Chapitre 16. Le crépuscule des samouraïs. L'action connue de tous les Japonais se situe vers la pointe méridionale de l'archipel, dans le sud même de l'île de Kyushu, en surplomb de cette baie de Kagoshima que les navigateurs occidentaux ont appelée la Naples de l'Orient. D'un point de vue historique, la bataille elle-même conclut sans équivoque la rébellion dite de Satsuma. Elle marque l'effondrement des samouraïs face à l'armée impériale, une armée indifférenciée de paysans conscrits. L'ordre des choses, dira-t-on. Mais sur un plan culturel, la défaite des samouraïs demeure difficile à digérer pour la société japonaise. Un homme a précipité le mouvement, le brillant Saigo Takamori, chef du domaine de Satsuma. Il est essentiel de savoir qu'avant de prendre la tête d'une rébellion contre le pouvoir impérial, Saigo a fait partie de ces hommes de tradition qui ont aidé le jeune empereur Mutsu Ito à liquider le shogunat déclinant des Tokugawa qui avait dominé le Japon durant près de 3 siècles. Ainsi a-t-il compté parmi les artisans de l'ère Meiji, autant dire parmi les partisans d'une ouverture de l'archipel à la modernité. Vers 1867-68, explique l'historien Pierre-François Souiri, la plupart des anciens partisans de l'expulsion des barbares sont désormais convaincus que la seule politique possible pour le pays, c'est son ouverture maîtrisée et l'assimilation rapide des technologies occidentales. Les samouraïs, hostiles aux étrangers et favorables à leur expulsion en 1850, sont moins de 20 ans plus tard ceux qui portent à bout de bras la modernisation accélérée du pays. Saigo Takamori est le premier de ceux-là. Devenu ministre de la guerre, il a même contribué à mettre sur pied l'armée moderne qu'un jour il finira par combattre. Par la suite, son tort aura été de prétendre employer cette armée toute neuve à la conquête de la Corée. « Trop tôt », a dit l'empereur, qui s'est défié de ses conseils et a préféré se passer de ses services. De retour chez lui, à Kyushu, Saigo remâche sa rancœur, et c'est par dépit sans doute qu'il va prétendre former, dans le domaine de Satsuma, une génération nouvelle de guerriers à l'ancienne, de parfaits samouraïs. Difficile de s'opposer plus ouvertement à la marche des réformes officielles. De fait, l'empereur s'impatiente et souhaite montrer son refus des traditions trop voyantes. En 1876, interdiction est faite aux samouraïs de porter en public le sabre long, le katana, symbole de l'âme du guerrier, comme le sabre court, le wakasashi. Cet aitorei, édit du 28 mai 1876, vise directement les samouraïs et provoque leur colère. Les élèves de Saigo Takamori, ses parents mais aussi ses fidèles et ses alliés de Satsuma, entrent en révolte. Saigo les calmera-t-il ? Il en a grandement le pouvoir. Mais il préfère laisser dégénérer les choses, pis il les encourage. Aussi est-ce pour ramener à la raison ce clan révolté qu'en janvier 1877, une unité navale mouille dans la baie de Kagoshima. Sa mission, désarmer ce qui, vu de Tokyo, apparaît comme un défi au pouvoir central. Outré de l'offense, Saigo fait un pas de plus dans la provocation en mettant son bataillon de samouraïs en ordre de combat. En février, il entreprend même d'assiéger la garnison impériale du château fortifié de Kumamoto, à une centaine de kilomètres au nord de Kagoshima. Erreur stratégique, semble-t-il, car le gouvernement, jouant de cet abcès de fixation, en profite pour acheminer dans l'île quelques 300 000 soldats conscrits qui, par la seule force du nombre et en dépit d'une résistance acharnée des samouraïs de Satsuma, viennent à bout en 6 semaines du gros des forces de Saigo, soit une vingtaine de milliers d'hommes. Restent, autour du chef traditionnel, quelques centaines seulement de valeureux guerriers, vétérans rescapés de combats déjà impitoyables. Ils ne sont guère plus de 300, 400 peut-être à se replier avec lui sur la colline de Shiroyama. Face à eux, sous le commandement du général Yamagata Aritomo, lui-même issu d'une illustre lignée de samouraïs, encore plus de 30 000 paysans disciplinés interchangeables formés aux méthodes de la guerre moderne. Et forcément bien équipés d'armes à feu. Les samouraïs, contrairement à la légende, ne méprisent pas ces dernières, dont ils se servent même avec efficacité. Simplement, ils les regardent comme inférieurs aux nobles sabres, arborés comme un prolongement d'eux-mêmes. Surtout, ils refusent de changer leurs pratiques ancestrales de combat. L'affrontement décisif à 10 contre 1. commence le 1er septembre 1877. Ce n'est pas une bataille ordinaire, mais un instant de vérité pour la nouvelle société Meiji, 6 ans après le décret instituant l'égalité devant la loi de tous les citoyens. La survie des samouraïs ou leur disparition, tel est l'enjeu du combat. Les samouraïs, ces guerriers magnifiques, étaient au fil des siècles devenus les piliers de la société nippone. Représentant environ 6% de la population totale, ils formaient une puissante classe de notables qui avaient monopolisé successivement le pouvoir militaire, l'autorité politique et l'influence intellectuelle, devait estimer l'historien américain Edwin Reischauer. Ils possédaient collectivement une appréciable fortune transmissible par héritage, même si individuellement, ils devaient souvent se contenter de revenus misérables. La rébellion du clan Satsuma est en quelque sorte le dernier sursaut d'une classe mise en danger par l'Empire restauré. Ce sera pour elle l'épreuve déterminante ou le baroud d'honneur. Le fait est que les troupes de Yamagata Aritomo sont infiniment supérieures en nombre et fortement épaulées par l'infanterie de marine de l'amiral Kawamura Sumiyoshi, un parent par alliance de Saigo. Pourtant, le chef de l'armée impériale régulière refuse de s'estimer trop tôt vainqueur. Il aurait même tendance à minimiser sa supériorité numérique et la modernité de ses équipements. Prenant plus que jamais au sérieux cette poignée de samouraïs convaincus de n'avoir rien d'autre à perdre que l'honneur, il encercle la colline avec une précision d'horloger ou, si l'on veut, d'artilleur. Fossés, terrasses, défenses sont minutieusement positionnées, ainsi que les batteries qu'appuieront bientôt les canons de 5 navires de guerre. En face, pas de canons, certes, seulement des mousquets d'un autre âge, chargés de balles artisanales. La plupart ont été fondus à partir de toutes sortes d'objets métalliques, dont des statuettes réquisitionnées sur le domaine et acheminées en contrebande par une foule anonyme de partisans et d'admirateurs. Les samouraïs ne sont-ils pas d'invincibles guerriers ? En vérité, personne n'est dupe de l'inégalité criante des forces en présence. Et Yamagata, de bonne foi sans doute, supplie instamment Saigo de se rendre. Mais comment contourner le code d'honneur, le Bushido ? Les combats sont précédés dans la nuit du 23 au 24 septembre d'une aussi intense que démesurée préparation d'artillerie. Les troupes impériales attaquent de partout à la fois selon une stratégie de resserrement concentrique qui vise à étrangler l'adversaire. Or, les samouraïs résistent bien sous la mitraille. Et lorsqu'un rapprochement au corps à corps rend opérante leur redoutable technique du sabre, Kenjutsu, ils affichent même une supériorité flagrante, laminant des lignes entières d'assaillants en uniforme. Le nombre, cependant, les réduit à l'impuissance, ainsi que la tactique adoptée par Yamagata qui a veillé à ce qu'aucun repli, aucune retraite ne soit tolérée. En cas de recul d'une ligne d'assaillants, les bataillons voisins ont reçu l'ordre de tirer indistinctement sur les combattants des deux camps. Lorsque le soleil commence à s'élever, la lumière qu'il jette sur la colline de Shiroyama ne permet plus aucun doute. Les malheureux samouraïs, bien pitoyables sous la vaine splendeur de leurs armures, font figure de fantômes d'un autre temps, égarés dans l'horreur impersonnelle de la guerre moderne. Combien sont-ils encore debout ? 40 ? 50 ? Au milieu d'eux, Saigo Takamori, pantelant sous le coup de blessures multiples et profondes. Ses fidèles lieutenants, dont le plus fameux répond au nom de Shinsuke Beppu, le portent comme ils peuvent en contrebas à l'écart de la mêlée pour l'aider à se donner la mort selon le rituel du Bushido appelé Seppuku. Ainsi périrent, dans le soleil levant, les ultimes représentants d'une classe immémoriale de guerriers demeurés sans pareil, de guerriers philosophes si l'on en croit leurs défenseurs. La voix du samouraï, lit-on par exemple dans le Hagakure si cher à Mishima, requiert de savoir qu'à tout moment, un événement peut survenir qui mette à l'épreuve la profondeur de sa résolution. Selon les circonstances, il se pourra que le samouraï gagne ou qu'il perde. Mais éviter le déshonneur n'a rien à voir avec gagner ou perdre. Pour éviter le déshonneur, il lui faudra mourir. Cela ne lui demandera ni savoir, ni talent particulier. Le samouraï expérimenté ne pense ni à la victoire, ni à la défaite. Il se contente de se battre comme un fou jusqu'à la mort.